Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Rien ne sera plus comme avant, c'est donc le titre de votre dernier livre. Rien ne sera plus comme avant, notamment pour le président Trump, qui a mis du temps à saisir l'ampleur de la crise liée au coronavirus. Il lui aura donc fallu combien de jours? Vous en avez fait le calcul?
Oui, ben c'est un calcul assez facile à faire puisque c'est un chiffre rond, 70 jours exactement, entre le 3 janvier, c'est le moment où les services secrets américains avertissent Donald Trump d'un danger potentiel, mais il n'y a à ce moment-là que 7 cas sur la planète et en Chine, donc Donald Trump n'y prête que très peu d'attention. Et le 11 mars, à ce moment-là, tout a changé, on est à 120 000 cas sur la planète, plus de 4 000 décès enregistrés, et Donald Trump va faire ce jour-là une annonce solennelle qui va absolument tout changer.
Et donc le 14 mars, il décrète l'état d'urgence. Entre-temps, il l'aura relativisé, il l'aura dénié la pandémie.
Oui, Donald Trump s'est trompé dans son analyse vis-à-vis de cette pandémie qu'il n'a pas vu venir, alors à sa décharge comme l'ensemble des chefs d'État de la planète. Seulement, il est le seul à en faire une exploitation politique exacerbée, on va dire comme d'habitude, à la Donald Trump. Surtout quand il s'adresse à ses troupes le 28 février 2020 en Caroline du Sud, quand il leur explique que c'est une intox, qu'il ne faut pas y croire et qu'il amène donc ses propres supporters à ne pas écouter les consignes sanitaires qui seront données par les autorités fédérales, donc ses propres autorités. C'est là l'erreur de Donald Trump, erreur majeure qui n'est pas commise par d'autres chefs d'État, et c'est cela qui lui sera certainement reproché à la fin. Mais c'est vrai qu'à partir de l'état d'urgence, on a un nouveau président. Entre le 11 mars, la première prise de parole solennelle dans laquelle il ferme les frontières, et le 28 mars, au moment où il fait son discours à Norfolk, dans lequel il devient vraiment présidentiel, et qu'il dit aux Américains d'ailleurs, je suis fier d'être votre président, il y a vraiment un monde entre le Donald et le Trump, qui sont vraiment deux personnages radicalement différents et qui pourrissent sa présidence depuis le départ.
Alors, rien ne sera plus comme avant. Quel est selon vous, Jean-Éric Brana, le visage de la nouvelle Amérique qui pourrait émerger?
Alors, ce qu'on voit émerger, c'est la fin d'un cycle qui était un petit peu inéluctable depuis les années 70, à savoir que les deux rives démocrates et républicains s'éloignaient l'une de l'autre et que les gens se parlaient de moins en moins. L'élection de Donald Trump en est un symbole fort et a marqué justement cette division entre deux peuples qui ne se parlaient plus, qui se reprochent tout et n'importe quoi, et c'était devenu vraiment quelque chose d'anxiogène dans cette société. Or, en cas de crise, on se resserre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la survie de l'humain, la survie de ses amis, de sa famille, de soi-même, bien sûr, de ses voisins. On a, par exemple, c'est juste une anecdote, mais le jeune démocrate de 20 ans qui va aller faire les courses de la vieille républicaine de 85 ans qui est sur son palier, à qui il ne parle jamais parce qu'il la déteste et qu'elle le déteste aussi. Mais là, on n'est plus dans ces questions-là. Il s'agit de s'entraider. Et des histoires d'entraide, il y en a des milliers en ce moment aux États-Unis, dont on entend parler dans les journaux, à la radio, à la télévision. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très important, c'est de voir ces liens qui sont retissés. Et cette Amérique qui a envie que leurs politiciens parlent autrement, agissent autrement, fassent autre chose, ce qui n'est pas forcément ce qu'on observe encore dans la vie politique. Donc, il faudra voir l'après comment il évolue.
Après crise, vous écrivez aussi que les Américains ne pourront pas faire l'impasse d'une réflexion sur le rôle de l'État fédéral. On a en effet vu monter au créneau ces dernières semaines des élus locaux, alors que ce soit des gouverneurs ou des maires.
Bien sûr, et c'est pas qu'ils ne feront pas l'économie d'un nouveau débat, puisque ce débat, c'est l'essence même de la République. C'est celui qui est né au moment de George Washington, le premier président, avec dans son entourage Adams et Jefferson, le deuxième président et le troisième président, qui se disputaient d'ailleurs, et d'ailleurs ils se détestaient, il faut quand même le dire, sur cette question-là vraiment particulière. Que doit-on faire de l'État fédéral par rapport aux États fédérés? Lequel doit avoir la primauté des décisions? Et là, on l'a vu en live, si je peux le dire ainsi. La question s'est posée de savoir si c'était au gouverneur des États ou au président fédéral de mener la gestion de la crise, de décider par exemple du confinement, d'envoyer la police quand les gens ne respectaient pas. Alors le pouvoir de police appartient au gouverneur, ce qui a en grosse partie réglé la question. Mais le président aurait pu déclencher les pouvoirs de police qu'il a lui-même, par exemple interdire aux gens de voyager d'un état à un autre, ce qu'il n'a pas fait. Donc il s'est mis en retrait et aujourd'hui on le voit dans une impasse politique puisque il explique que c'est à lui de mener le déconfinement, mais comme c'est pas lui qui a confiné, eh bien ce n'est donc pas lui qui peut déconfiner. Et là on est reparti dans ce jeu politicien de l'État fédéral par rapport aux États fédérés, et les États fédérés ont pris la main sur les décisions par rapport à l'État fédéral qui en ressort très affaibli.
Et oui, on a vu des gouverneurs comme Andrew Cuomo, donc le gouverneur de New York, monter au créneau. Il y a des personnalités comme ça sur ces dernières semaines qui ont émergé.
Mais il n'y a que ça en réalité. Le nom des gouverneurs sont aujourd'hui répétés partout dans le pays. Et que ce soit Newsom en Californie, Inslee en Oregon, Pritzker en Illinois, Whitmer dans le Michigan, Cuomo effectivement à New York, Ross en Pennsylvanie. Les noms sortent et ce sont aujourd'hui des gens qui s'opposent à Donald Trump, à tel point qu'en début de semaine, alors que Donald Trump montait sa task force pour réfléchir au déconfinement, eh bien du côté de la côte Est, il y a 5 gouverneurs qui se sont mis ensemble pour créer eux-mêmes une task force pirate, on va dire, ou parallèle. Et de l'autre côté des États-Unis, les États de Washington, Oregon et Californie ont fait la même chose. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des pouvoirs qui s'opposent et qui sont des forces très très puissantes aux États-Unis. Et ces gouverneurs sont vraiment, vraiment en première ligne politique.
Et alors, quelle nouvelle donne apporte cette pandémie pour les deux candidats à la présidentielle qui doit se tenir le 3 novembre prochain ?
Alors, on part d'une situation très crispée, il ne faut pas l'oublier. Il y avait une situation dans laquelle il pouvait se passer n'importe quoi. Donald Trump ne bougeait pas de sa cote de confiance qui était d'environ 45% de la population. Aujourd'hui, on va dire que paradoxalement, il est toujours à 45%. Il n'y a pas d'envolée de Donald Trump, aucune. Alors qu'on a eu, par exemple, sous Carter, un doublement de sa cote, sous Bush, au moment du 11 septembre, la même chose, sa cote qui double. Pour Donald Trump, ça ne bouge pas. Et donc, on peut s'attendre à un affaissement de sa cote à la fin de la crise, au moment où les gens vont compter ce qui leur reste. Et donc, quand il va y avoir du chômage, des emplois perdus, des entreprises qui s'écroulent, c'est à Donald Trump qu'on le reprochera en premier lieu. C'est la cruauté de la politique. Moi, je m'attends à un affaissement de sa popularité, mais un affaissement très brutal au moment de l'été et duquel il ne remontera pas. Et là, il y en a un qui a quand même très bien joué le jeu en se mettant en retrait, en n'attaquant pas Donald Trump, en attendant son tour. Joe Biden s'est placé comme un homme responsable. Il distille dans la presse des idées, mais il répète régulièrement que Donald Trump n'y est pour rien, même si, dit-il aussi, Donald Trump a quand même très mal géré au début. Ça, c'est le jeu politique. Mais ça rentre dans les têtes.
Merci Jean-Éric Brana.
Je vous en prie.